sortie de boîte, Cédric Adrovert.
C'est facile à trouver. À la sortie de l'autoroute, on voit les cheminées, c'est là. Effectivement, il avait raison, mon invité. La nouvelle centrale du thermoréseau de Porrentruy, vous ne pouvez pas la rater. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir un tout petit peu de retard à cause des bouchons. Mais pas grave, il était occupé. Il y a assez à voir et à faire en ce moment. On s'installe dans la salle des commandes. Autour de nous, des écrans avec des couleurs, des flèches qui clignotent. Ça a l'air bien compliqué. Et des bruits de perceuses. Oui, parce que les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Il la fallait, cette deuxième centrale. Parce que selon mon invité, la première, c'était comme un boguet bien chindé. Son père a commencé de travailler sur le thermoréseau à 20%. Aujourd'hui, le fils emploie 15 à 17 employés. Et c'est une vraie passion, ça se sent quand on visite. Lui-même s'en rend compte d'ailleurs entre deux phrases. Il me dit « Bon, je parle beaucoup, il y a tellement à dire. » Eh bien, on a une vingtaine de minutes pour synthétiser tout ça. Alors, on ne va pas en perdre une de plus. Bonsoir Manuel Godinin.
Oui, bonsoir.
Vous dirigez le thermoréseau de Porrentruy, on va expliquer ce que c'est, comment il fonctionne, les défis qui se présentent à vous aujourd'hui. Mais avant ça, un mot sur vous, l'odeur des copeaux de bois, ça représente quoi pour vous ?
Oui, ça représente beaucoup de choses. Il faut savoir que je suis un petit peu né dans les copeaux. Effectivement, mon père était ingénieur forestier pour la République et canton du Jura à l'époque. Et il avait déjà des idées de développement, à savoir comment on allait pouvoir revaloriser les déchets de coupe, qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire. C'est par la suite qu'est venue l'idée d'en faire des copeaux et en faire de l'énergie. Et il avait toujours cette idée en tête et en fait, on avait de la chance, on a toujours pu partir en vacances, on avait un camping-car, on a sillonné une bonne partie des pays d'Europe. Et en fait, c'est impressionnant, il ne pouvait pas y avoir une sortie en vacances sans qu'il y ait la visite soit d'une centrale, soit d'un hangar de copeaux de bois et autres. Et on me retrouve en fait souvent sur les photos à côté de copeaux, n'importe quoi, pour pouvoir faire l'échelle à l'époque. Donc je dis toujours, je ne suis pas forestier, mais effectivement, je suis né dans les copeaux.
Le chemin était tout tracé, vous alliez reprendre sa société ?
Non, alors c'était absolument pas prévu. Déjà, c'est pas sa société, c'est pas ma société, hein. C'est les sociétés, ce sont Thermobois et Thermoréseau, des sociétés anonymes avec des conseils d'administration, et on a été effectivement nommé directeur, donc c'est pas notre société. Et non, alors pas du tout, jusqu'au dernier moment où j'ai été engagé effectivement à Thermobois, Thermoréseau, mais c'était pas du tout prévu que j'aille dans ces directions-là.
Pourquoi vous vouliez pas ?
Non, c'est plutôt lui qui, en tout cas, n'a jamais voulu inciter dans ce sens-là. C'est vrai que la mise en place d'une centrale thermique comme celle de Porrentruy, la première centrale du thermoréseau, c'est quelque chose où il en a beaucoup bavé. Ça veut dire qu'il était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il était qu'à 20%. C'était une activité annexe. Il y avait peut-être encore un secrétaire à 50% à ce moment-là. Il n'y avait pas de technicien, etc. Et puis, il a passé beaucoup de nuits blanches à développer, à roder les machines, etc. avant que ça fonctionne correctement. Donc, non, il c'était un passionné, mais au début, j'avais ce sentiment qu'il n'avait pas envie que ses enfants fassent cela.
Et finalement, c'est quand et comment que vous êtes revenu dans la société ?
Oui, en fait, moi, j'ai fait après l'école secondaire, j'ai fait le lycée cantonal. C'était pas très clair à la fin du lycée cantonal, j'avais fait la filière scientifique, c'était pas très clair pour moi vers quoi j'allais me diriger. Mon frère travaillait dans l'aéronautique en tant qu'ingénieur mécanicien, puis je m'étais dit pourquoi pas essayer. Et j'étais donc parti à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en mécanique, j'ai fait quelques années là. Arrivé en troisième année, j'allais devoir redoubler, ça me plaisait plus tellement. En fait, tous les matins, j'avais vraiment pas envie d'aller, ça ne m'intéressait pas. Et puis j'ai cherché une orientation nouvelle, et puis il y avait une fibre énergie renouvelable qui m'intéressait, mais pas forcément le bois énergie, ça pouvait être le photovoltaïque, etc. Tout ce qui était énergie et développement durable me plaisait. J'ai donc fait ma formation d'ingénieur en génie thermique à Yverdon, à l'école d'Inge. Et quand je suis arrivé à la fin de mes études, en 2008, les examens étaient réussis. Et j'ai pu être engagé dans un grand bureau à Lausanne, bureau d'ingénieur. Et à ce moment-là, il y a eu un petit déclic de mon père. Moi, je devais faire encore mon travail de diplôme durant l'été dans la région. Et puis, il m'a dit, mais écoute, je me retrouve avec beaucoup de travail avec le développement du thermoréseau. Si tu pouvais venir me donner un coup de main, tu fais ton travail de diplôme, il y a 50%, tu viens me donner un petit coup de main. Et là, j'ai découvert un tout nouveau métier que celui d'ingénieur. C'était un peu de marketing, de la vente, des contacts avec les clients. Mmh. J'adore ce contact.
Ça a stimulé quelque chose.
Ça a stimulé quelque chose. D'aller de développer ce réseau tout en ayant des contacts avec les clients, j'ai trouvé ça exceptionnel, en plus dans ma région. J'ai fait comme ça ces 6 mois, j'ai fini mon travail de diplôme, et puis là, il a proposé de m'engager officiellement.
Que vous restiez. Et 4 ans plus tard, vous prenez la direction dans des circonstances pas simples. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, alors pendant 4 ans, on a travaillé l'un en face de l'autre, hein, comme nous deux en ce moment. Donc vraiment pour que chaque information qu'il recevait, il puisse la partager avec moi, pour qu'une formation, non pas une transition, mais vraiment qu'une acquisition des choses soit faite le plus rapidement possible. Et en 2012, malheureusement, au mois de mars, on lui a annoncé un cancer en stade terminal. Donc c'était déjà très, très avancé. Lui a été tout de suite... très lucide quant à la situation, ce qui allait se passer pour lui. Et il a immédiatement proposé aux deux conseils d'administration de Thermoboîte Thermoréseau de me nommer à la direction. Et j'ai eu la chance que ces conseils d'administration me fassent confiance. Quelques mois plus tard, il est décédé. Puis j'ai effectivement dû reprendre la direction d'un gros bateau. C'est pas énormément d'employés. Finalement, c'est pas une grande entreprise, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est très diversifié sur les développements du réseau, sur la partie foresterie, la gestion du personnel, les salaires, etc. Puis à 28 ans, je me suis retrouvé à devoir piloter ces deux entreprises avec, en l'occurrence, un projet important, un projet d'envergure qui était celui de la construction d'une deuxième centrale thermique.
Dont on va parler, mais très rapidement, quand on arrive comme ça aux commandes, dans une transition difficile, avec un contexte émotionnel qui doit être quand même assez chargé, comment vous avez fait pour tenir bon ?
Oui, il a fallu serrer les dents, hein, faut être clair. La période de sa maladie a été très difficile pour moi, la période de décès aussi. C'était une période où j'ai remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Et en fait, je ne suis pas parti de zéro. Tout d'abord, la formation que j'ai eue avec lui a été excellente. En plus, on a quand même des collaborateurs, collaboratrices qui sont excellents aussi bien du point de vue administratif que technique. Donc, ils m'ont appuyé comme ils le pouvaient. Et finalement, j'ai dû apprendre au jour le jour. Alors, j'avais pu encore quelques années plus tôt faire un certificat en management. Mmh. Donc, j'avais quand même des connaissances en comptabilité, etc. Mais j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris. Et puis finalement, de jour en jour, de mois en mois, j'ai pu me mettre dans cette fonction.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure deux entreprises, Thermoréseau et Thermobois. Laquelle fait quoi, très rapidement ?
Alors, historiquement, c'est Thermobois, la première société qui a été créée en 1989. L'idée, en deux mots, c'est donc de faire des copeaux de bois à partir de déchets de coupe. On ne va jamais aller en forêt abattre des arbres pour en faire des copeaux de bois, mais on va vraiment récupérer tous les déchets de coupe qu'on va déchiqueter, ensuite qu'on va revaloriser, revendre à des chaufferies. Donc ça, c'est la fonction de Thermobois, faire la promotion du bois énergie. Ça n'existait pas à la fin des années 80. Et Thermobois se cherchait un débouché. Il y a un potentiel monumental dans notre région en termes de déchets de coupe. Il fallait donc un chauffage à distance qui allait pouvoir écouler le plus grand de ses volumes. Donc Thermobois a une trentaine de chaufferies comme clientes, mais son principal client, c'est le Thermoréseau de Porrentruy. Le Thermoréseau de Porrentruy qui est donc le chauffage à distance qui s'est développé depuis 1999.
Et comment fonctionne un Thermoréseau ? On va le voir, c'est tout un chemin qu'on parcourt avec Jean-Michel Probst. Il est venu visiter. Son guide, c'est Clovis Bouéchat, un des responsables techniques de l'entreprise.
Sortie de boîte.
Le point de départ, il se situe dans la forêt où là on intervient avec déchiqueteuses et camions à différents endroits du canton, même jusque dans le Jura bernois. Et puis, des moments où le produit est déchiqueté, soit on peut livrer en direct chez nos différents partenaires clients, ou alors on livre directement à la centrale, soit la centrale de Bellevue, soit la centrale de Roche-de-Marche, sachant que finalement, Bellevue est arrêtée et actuellement nous produisons de l'électricité, d'où un fonctionnement optimal des installations à Roche-de-Mars pour avoir le plus de kilowattheures thermiques et électriques de produits.
Alors ici on voit les bois qui ont déjà été déchiquetés.
Tout à fait, donc ils viennent d'être acheminés par nos propres transports avec des bennes qui vont jusqu'à 50 mètres cubes. Actuellement on est dans une position de stockage, c'est-à-dire qu'on a un stock d'environ 5000 mètres cubes qui nous permet de pallier à différentes pannes ou de pouvoir passer les jours fériés sans être obligé d'acheminer du copeau. Il faut penser qu'on a du copeau qui est relativement frais de la forêt, c'est-à-dire qu'on a 50 à 60% d'humidité. Ça veut dire que pour une tonne de copeau livré, plus de la moitié c'est de l'eau. Alors pour ceux qui sont à la radio, ils n'ont pas l'odeur, mais nous on a le goût et l'odeur, c'est-à-dire que là on est au niveau bas des fosses, on est en face du bois qui vient d'être livré, avec toujours beaucoup d'humidité dans l'air, et puis un peu un produit qui sent bon la forêt. Alors vu qu'on savait qu'on avait de la visite aujourd'hui, on a arrêté une machine, comme ça on peut se rendre compte du foyer. Oui. On a des températures de foyer qui peuvent varier. Ça varie aussi beaucoup de la qualité du copeau, mais on peut monter jusqu'à 1100 degrés pour avoir des rendements optimum d'échange sur la partie thermique de l'échangeur.
Le feu avec une petite une caméra de surveillance, ce qui permet de justement bien remarquer que c'est toujours en fonction quand vous êtes derrière un ordinateur justement de contrôle.
Alors l'avantage avec ces chaudières, c'est que quand on est derrière l'ordinateur, il n'y a jamais de problème. C'est quand on est au pied du lit que les problèmes arrivent. C'est-à-dire que le patron a dit, je veux leur mettre des caméras, comme ça ils seront quittes de dire, j'ai rien vu. Donc c'est vraiment pour de la surveillance à distance. Parce qu'ici, on passe à côté, on se rend toujours compte. Par contre, pendant la nuit, s'il y a un problème, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des aires primaires, etc., il faut qu'en visualisation, on puisse se rendre compte de ce qu'il y a.
Sortie de boîte.
Un reportage signé Jean-Michel Props que vous retrouvez en version longue sur notre site internet. Nous sommes de retour dans notre studio de Delémont avec Manuel Godina, le directeur du thermoréseau de Brantruy. Pour qu'on se rende compte, aujourd'hui, le volume d'habitation que vous chauffez, ça correspond à quoi ?
Alors, on a environ 400 bâtiments qui sont raccordés au thermoréseau de Brantruy à travers Brantruy et Fontenay. Notre réseau s'étend jusqu'à la commune de Fontenay. Ça représente en fait 45% environ des besoins en chaleur totaux de Brantruy, entreprises comprises, donc entreprises également comptées dedans. Donc c'est des volumes relativement importants.
C'est le deuxième plus grand thermoréseau de Suisse. L'investissement principal, c'est quoi ? C'est les canalisations ?
Oui, tout à fait. Donc, bon, y a, comme directeur, je trouve que tout coûte cher, hein, que ce soit les honoraires des ingénieurs.
Tous les directeurs disent ça.
Oui, mais là, ça coûte vraiment cher. Oui, le développement du réseau, on peut dire, quand les gens voient en ville des travaux, alors c'est embêtant, etc. Il faut savoir aussi que c'est un investissement conséquent. Ça coûte environ 1500, entre 1000 et 1500 francs par mètre de réseau installé. Donc on est vraiment dans des coûts essentiels. C'est pour ça qu'il faut vraiment... On ne peut pas aller raccorder une petite maison qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. On cherche toujours les gros consommateurs. Et naturellement, si on passe devant une maison qui est juste à côté de nos conduites, on peut proposer de la raccorder. Mais là, c'est vraiment un calcul de rentabilité qui doit être précis. Et on ne doit pas se tromper.
Alors, on l'a entendu dans le reportage, il y a le chauffage, mais il y a aussi l'électricité. Vous produisez de l'électricité. Comment ça fonctionne ?
Alors, le chauffage à distance, c'est tout simple. Hein. En deux mots, ces copeaux, vous l'avez entendu dans le reportage, quand ils brûlent, ils font des flammes à 1000 degrés. Autour de la chaudière, il y a de l'eau qui passe. On chauffe cette eau à 95 degrés, qu'on pousse à travers le réseau, à travers le chauffage à distance, et puis on va céder cette chaleur dans les habitations. Faire de l'électricité, c'est nettement plus complexe, mais en deux mots, on ne va pas chauffer de l'eau, on va chauffer une huile thermique à 300 degrés. Donc, c'est des températures et des pressions supérieures, différentes. À un moment donné, ça va permettre de transformer sous forme de gaz un fluide qui, lui, va faire tourner une turbine, hein, parce que le gaz sous pression va faire tourner la turbine. Ce gaz aura encore une chaleur résiduelle en sortant de la turbine. On va donner cette chaleur résiduelle au chauffage à distance et puis on va recommencer le cycle pour refaire tourner la turbine. Pour ça, on parle vraiment d'un couplage chaleur-force. On ne peut pas dire un matin je fais que de l'électricité, l'après-midi que de la chaleur. C'est vraiment toujours...
Ensemble.
On fait ensemble. On fait de l'électricité et il y a une part de chaleur qui doit être valorisée.
Alors on l'a dit, il y a une deuxième centrale que vous allez d'ailleurs inaugurer bientôt. Comment est né le projet et qu'est-ce qu'il va apporter ?
Il faut savoir qu'en 1999, le projet avait été revu au strict minimum. Hein. On était à une période où le mazout coûtait une vingtaine de francs les 100 litres. Hein. Quand il est à 70 ou 80 francs, faut bien imaginer qu'il était 4 fois moins cher à l'époque. Le projet était tout petit et c'était l'idée de raccorder 100 bâtiments. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est aujourd'hui à 400. Donc il y a eu, pour différentes raisons, mais notamment parce qu'on propose un produit de qualité, le bouche à oreille a bien fonctionné, ah, t'es raccordé au thermoréseau, moi aussi je veux y aller, etc. On a connu un véritable engouement. 86% de nos bâtiments chauffés sont à des propriétaires privés, ce qu'on n'imaginait pas du tout à l'époque. Et à un moment donné, la centrale est devenue trop petite. Les conduites qui sortaient de la centrale sont devenues trop petites et il fallait construire une deuxième centrale. Ça fait très longtemps qu'on en parle. C'est en 2009 que le projet a commencé à devenir concret. C'est justement une des raisons pour lesquelles mon père a souhaité m'engager. On a dimensionné ensemble cette centrale. On a estimé à l'époque, en 2010 environ, et on est toujours sur les mêmes estimations, qu'on allait raccorder d'ici 2022 550 bâtiments à Brantruy.
Deux tiers ?
Ça représente en gros les deux tiers de la demande en chaleur. En termes de si on parle en équivalent mazout, ça représentera 6,5 millions de litres de mazout. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on sera 17 employés. Actuellement, on n'est que 14. Ça va encore se développer ces prochaines années.
Aujourd'hui, c'est rentable le thermoréseau ?
Alors, c'est
vous faites des bénéfices ?
Non, alors on ne fait pas de bénéfices. Il faut voir qu'on a un caractère très public. Ça veut dire que l'idée n'est pas de redistribuer des dividendes à nos actionnaires, principalement au canton, à la municipalité de Brantruy. Actuellement, ce n'est pas l'objectif. pour l'heure, toutes les liquidités qu'on arrive à sortir, on les réinvestit dans les extensions du thermoréseau. Par contre, on imagine les plans financiers tables sur 2031 pour le versement de dividendes. Maintenant, on verra encore ce qu'on fera d'ici 15 ans.
Le canton, de nombreuses communes sont actionnaires. Vous l'avez dit, c'est quoi les avantages et peut-être aussi les inconvénients d'avoir autant d'actionnaires et des actionnaires dans le public ?
Bon, d'avoir de nombreux actionnaires, c'est que tout le monde se sent concerné. Le thermoréseau, c'est un petit peu l'entreprise de tout le monde. Hein. Chacun, l'action est à 250 francs, donc on a certains privés qui ont une seule action. On a donné l'opportunité également à nos clients d'être actionnaires, donc c'est un petit peu ça. Il faut savoir que les principaux actionnaires sont le canton du Jura, la municipalité de Porrentruy, et ce sont notamment nos plus gros clients avec l'ensemble des bâtiments publics de Porrentruy qui sont raccordés au thermoréseau. Donc il y a aussi une maîtrise. Ils veulent pas non plus, ben justement, pourquoi vendre des dividendes ? Pour vendre des dividendes, il faudrait vendre la chaleur beaucoup plus cher, et ça, ben, aussi bien la municipalité que le canton ne le voudrait pas, et puis préfère se garantir des charges de chauffage pas trop élevées.
Vous envisagez de vous implanter sur d'autres communes ?
Alors, on est actuellement sur la commune de Fontenay. Il y a une étude qui a été faite tout dernièrement, qui est encore en cours de réflexion pour étendre le chauffage à distance un petit peu plus loin. C'est très délicat par rapport à ces investissements par mètre de conduite. Il y aurait des pertes de chaleur aussi qui deviendraient trop importantes. Par contre, ce qu'on aimerait plutôt, c'est reproduire, développer des projets similaires au thermoréseau ailleurs que Porrentruy. Bon, on parle de Saint-Ursanne, on parle de Boncourt dans les médias. Donc, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir le reproduire de manière un peu plus poussée à différents endroits du canton.
Et technologiquement, vous travaillez actuellement à la production de froid. C'est un projet. La climatisation, c'est l'avenir du chauffage ?
Alors, c'est pas l'avenir, mais c'est vrai que on a réussi jusqu'à maintenant un beau challenge avec cette nouvelle centrale. Faut voir, c'était un projet de visée à près de 22 millions de francs. À 29, 30 ans, je devais aller devant les banques et puis leur demander 19 millions à nous prêter. Alors là, heureusement, ben, qu'on a aussi bien des collaborateurs que des administrateurs qui nous appuient dans ces démarches. Très beau challenge. Pour l'instant, ça fonctionne. Alors, il y a encore quelques rodages à améliorer sur la turbine, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant. Le souci de la turbine, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on fait de l'électricité, on doit pouvoir revaloriser de la chaleur derrière. Et durant l'été, c'est clair, le chauffage à distance ne demande pas grand-chose. Alors, si on veut continuer de faire tourner cette turbine, il faut trouver un consommateur de chaleur. Et il y a un procédé par absorption qui permettrait, avec le chauffage à distance, de faire du froid. Ça veut dire que ceux qui ont un frigo à la maison, on utilise un compresseur qui consomme beaucoup d'électricité, on retirerait ce compresseur, et puis par un système thermodynamique, ça nous permettrait de faire du froid. Donc,
en vulgarisant, on fait du froid avec du chauffage, quoi, vraiment.
Oui, exactement. Dans ceux qui ont un camping-car ou une caravane, quand ils sont à l'arrêt dans un camping et puis qu'ils allument le gaz pour allumer leur frigo, ben, c'est effectivement du froid par absorption. On le ferait à grande échelle. Et donc, c'est le projet, c'est qu'en 2018, on climatise l'ensemble de nos bureaux de la nouvelle centrale de cette manière-là, que ça constitue un showroom et puis que les entreprises de Porrentruy qui pourraient être intéressées à faire leur climatisation par le chauffage à distance, eh bien, qu'on puisse leur présenter un système qui fonctionne et puis qui est vraiment intéressant d'un point de vue écologique.
Il y a aussi un projet de nouvelle patinoire en Ajoie. Vous avez des idées derrière la tête ?
Alors là, c'est encore un projet plus utopique, mais pourquoi pas ? Enfin, s'il y a un peu de rêve, on n'aurait jamais fait tout ce qui s'est fait avec le thermoréseau. Effectivement, en Suède ou dans les pays scandinaves, ce sont des installations qui fonctionnent. Ça existe et ça fonctionne. On arrive à faire de la glace avec le chauffage à distance. Alors pour l'heure, le projet de rénovation de la patinoire ne prévoit pas de changer les installations. Tant mieux, on ne serait pas prêt. Mais pourquoi pas, dans 5 ou 10 ans, s'approcher de la patinoire et dire pourquoi pas le chauffage à distance qui vous fera la glace.
Avec tous ces projets, vous arrivez à vous poser parfois, Emmanuel Godinat ?
Oui, ben comme tout le monde, il faut à un moment donné souffler. J'ai une petite fille qui a 16 mois, donc c'est clair que là aussi, on met un petit coup de frein. Mes administrateurs vont me taper sur les doigts si je dis ça à la radio, mais on voit les choses un peu différemment, on prend un peu plus de temps en soirée ou durant les week-ends. Donc oui, il faut se poser, il faut avoir des occupations extra-professionnelles. C'est essentiel, sinon on ne tient pas, je pense.
C'est important de savoir ralentir le temps. Marie-Lise Saillard peut vous aider, elle peut même vous aider cette semaine dans notre chronique horlogère à l'arrêter le temps.
Pile à l'heure. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours.
Alphonse de Lamartine avait vu juste, ça nous est tous arrivé de vouloir faire en sorte que le temps s'arrête pour prolonger la magie d'un moment. « La marque Hermès a rendu ce rêve réalisable. Plus exactement, Hermès et Jean-Marc Widrecht de l'atelier Genevois d'horlogerie à Genors conçoit des mécanismes spéciaux souvent compliqués pour le compte de grandes maisons horlogères. Ce n'est pas pour rien si Jean-Marc Widrecht est lauréat du prix Gaïa cette année dans la catégorie artisanat création. Jean-Marc Widrecht revient donc sur cette invention.
Temps suspendu d'Hermès, pour un horloger, c'est aussi un sacré challenge. Quand on vient demander à un horloger d'arrêter le temps, c'est plutôt philosophique, c'est tout ce qu'on veut, puis on dit, mais c'est pas une montre. Quand j'avais à peu près trouvé comment faire pour arrêter des aiguilles, avec des principes de rattrapante et tout, c'était pas parfait, rien du tout, mais je me suis rendu compte qu'en plus... Personne n'achèterait une montre où simplement des aiguilles s'arrêtent. Il fallait rajouter quelque chose, une notion beaucoup plus importante, c'est-à-dire c'était de perdre la notion du temps.
Au-delà de la prouesse technique qui permet au mécanisme de suspendre le temps, il fallait encore régler la question de l'affichage. On retrouve Jean-Marc Widrecht.
Les aiguilles, non seulement je les arrête maintenant, puis je les remets en marche plus tard, je ne regarde même pas à quel moment j'appuie sur le bouton. Les aiguilles vont se mettre dans une position totalement improbable qui ne me permet plus de lire l'heure. Donc je ne sais pas depuis quand j'arrête le temps. Puis je peux l'arrêter pour une demi-heure, mais je peux l'arrêter une semaine, un mois, deux mois, trois mois, même la date disparaît. Donc le résultat, c'est vraiment ça, c'est de dire maintenant j'ai une montre, c'est un objet que j'aime bien, mais il m'énerve parce qu'il me donne l'heure. Donc maintenant, je supprime toute possibilité de voir le temps. Cette montre ne me donne plus le temps aussi longtemps que je le désire.
Et quand on rappuie, on renclenche tout ça et on retombe dans le présent.
On revient dans la vraie vie, ou la vie, je ne sais pas laquelle est la vraie vie pour finir, mais en tout cas, on revient dans le temps normal.
Dans le temps qu'on peut mesurer et voir.
Exactement, et on n'a rien perdu. On peut justement, après un mois, on retrouve l'heure, la minute et la date.
Jean-Marc Widrecht nous a raconté comment est née cette montre Hermès, le temps suspendu. C'est l'une des inventions qui lui a permis de devenir lauréat du prix Gaïa. Cette distinction lui sera remise le 21 septembre au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Seront aussi récompensés à cette date Laurence Marty dans la catégorie Histoire, Recherche et Richard Mille dans la catégorie Esprit d'entreprise.
Pile à l'heure.
Et on retrouve le déroulement normal du temps pour se rendre compte que notre émission touche gentiment à sa fin. Manuel Godina, directeur du Thermoréseau de Porrentruy, vous étiez notre invité. Un dernier mot, si des gens sont intéressés à en savoir plus, visitez vos installations, vous organisez des portes ouvertes du 6 au 8 octobre. Ça va consister en quoi ?
Alors effectivement, du vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir, du 6 au 8 octobre, il y aura la possibilité de visiter les installations techniques, la turbine tournée. Donc comme c'est la plus grande de Suisse romande et la deuxième plus grande de Suisse de ce type, ça vaut vraiment la peine. On peut inviter toute la population et les professionnels à venir voir ce qui se passe à Porrentruy. Il y aura des animations pour les enfants, châteaux gonflables, petits trains, etc. Et on aura aussi aux abords de la centrale un sentier didactique, un peu une première dans la région, où on explique les fonctions de la forêt. Et on part de à quoi sert la forêt, pourquoi il y a la forêt, pourquoi on l'exploite et comment on en arrive à des copeaux de bois. Donc ça sera vraiment sympa et on invite tout le monde à venir du 6 au 8 octobre.
On remettra tout ça sur notre site internet avec l'intégralité de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Jean-Michel.
La semaine prochaine, nous nous rendrons à Berne dans les locaux de la promotion économique du canton. Nous recevrons Sébastien Fries, le nouveau directeur en fonction depuis le 1er mai. Il nous dévoilera sa vision du poste et sa vision de la santé, de l'économie, de la région. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Sortie de boîte.